Sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, c'est l'heure de prendre la parole, appel sur l'actualité, nous sommes ensemble jusqu'à 9h temps universel. Pour notre libre antenne juste après le journal Afrique, c'est vous qui choisissez ce matin les sujets de débat en appelant au 33 9 693 693 70 ou bien en nous laissant vos messages sur les comptes Facebook et Twitter de l'émission. Avant cela, vos questions sur l'actualité, on parle ce matin de la visite de Barack Obama au Vietnam, de la blessure de Varane, mais d'abord de la situation en Syrie avec Étienne qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour Marie.
Vous aviez des questions à nous poser, Étienne, sur de récents attentats en Syrie.
Oui, en effet, le 23 mai dernier, l'organisation de l'État islamique a perpétré des attentats dans une zone contrôlée par l'État syrien. Alors je voudrais savoir pourquoi est-ce que cette organisation ne s'attaque qu'aux zones contrôlées encore par l'État syrien et pas aux zones contrôlées par les rebelles modérés. La deuxième question de savoir, après cet attentat, quelles ont été les réactions de l'État syrien, des États-Unis et de la Russie.
Merci beaucoup Étienne. La ligne avec Abidjan n'était pas très bonne, alors je vais juste rappeler votre première question. Vous demandez pourquoi l'État islamique s'attaque seulement à l'armée régulière syrienne et pas aux rebelles modérés. Toufik Ben Aïchouch nous a rejoint en studio du service international de RFI. Bonjour Toufik.
Bonjour.
Alors on va revenir déjà sur ces attentats du 23 mai. Ils ont touché deux villes de la côte syrienne.
Oui, ils ont touché surtout Tartous et puis Djablé. Tartous, c'est une ville très importante, vous l'avez dit, c'est un port, c'est sur la côte syrienne. Et ça abrite surtout, c'est pour ça que ça a été une des villes qui a été visée par ces attentats meurtriers, ça abrite la seule base navale militaire que possède la Russie en Méditerranée. Donc c'est extrêmement important pour Moscou. C'est d'ailleurs la protection de cette base maritime, donc russe, qui a provoqué, qui a motivé l'entrée dans la danse, si vous voulez, l'entrée dans le jeu syrien des forces russes en septembre dernier. Pour aller très vite, l'opposition djihadiste s'est approchée de la ville à peu près à 30 kilomètres. C'était une ligne rouge à ne pas franchir pour Vladimir Poutine, qui a fait donner donc son armée, qui a fait installer des missiles redoutables, les S-300, dont on ne sait pas trop comment on peut les abattre, ces missiles. C'est vraiment une arme de pointe. Et il a fait reculer cette ligne rouge, si vous voulez, de 100 kilomètres en jetant dans la bataille des hommes, des forces spéciales. Et donc, il y a eu des offensives contre l'opposition djihadiste en Syrie, notamment de l'armée syrienne, mais appuyée par l'armée russe. Et Daesh, notamment, et même Al-Nusra, a perdu du terrain. C'est une manière, cet attentat, un peu d'essayer de reprendre l'avantage.
Et alors, vous l'avez dit, Tartous et Djablé, donc, ne sont pas très loin de ces bases militaires russes. C'est pourtant des civils qui ont été attaqués cette fois.
Alors en même temps, ça fait partie de la stratégie de la terreur et de la violence, c'est-à-dire plus on déstabilise une société, une ville ou une agglomération, eh bien en provoquant des attentats meurtriers ou des civils innocents sont des victimes, eh bien ça provoque la peur, ça provoque des mouvements de foule, de départ. Il y a des gens qui fuient, qui ont commencé à fuir un petit peu cette région-là. Donc c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses quand il y a une guerre.
Est-ce qu'il faut peut-être rappeler alors qui contrôle cette zone de Tartous et Djablé, et qui expliquerait aussi pourquoi elle est une cible de l'État
islamique ? Dorénavant, il n'y a pas à tortiller, si vous voulez. C'est l'armée russe qui contrôle toute cette région. L'armée russe qui a fait agrandir un aéroport, qui a fait parvenir des forces spéciales russes, qui a fait parvenir, je vous l'ai dit, un armement de pointe considérable. Et voilà, c'est la seule Russie qui contrôle cette région. Même l'armée syrienne n'a pas son mot à dire à Tartous.
Alors du coup, c'était la deuxième question de notre auditeur Étienne. Les réactions, alors d'abord du régime syrien, de Moscou, des États-Unis. On commence peut-être par le régime, comment il a réagi
à... Le régime a fait donner du canon, a fait donner son aviation aussi sur des positions d'Al-Qaïda, de Daesh et de Nusra. Al-Nusra étant Al-Qaïda en Syrie. Voilà, alors pour la réaction à la fois américaine et russe, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps c'est plus passionnant. Ce qui s'est passé, c'est que le 9 mai, selon des fuites dans une presse bien informé généralement, s'est tenue en Turquie une réunion très importante des patrons des services secrets américains, turcs, saoudiens et qataris. Et lors de cette réunion, eh bien, les États-Unis ont décidé de lancer une offensive contre Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique, donc en Syrie. Et en même temps, si vous suivez l'actualité, vous l'avez remarqué, il y a eu une offensive que mène l'armée irakienne, appuyée par les milices chiites, contre Fallujah. Mmh. Il y a deux villes importantes qui sont aux mains de l'État islamique en Irak, c'est Mossoul et c'est Fallujah. Et pour la Syrie, donc le cœur du problème, si vous voulez, c'est Raqqa. Lors de cette réunion en Turquie, les Américains ont décidé de confier une force nouvelle qui s'appelle le Front du Nord, Jishel Janoub. Et cette force du Nord, composée grosso modo de 3000 hommes, eh bien, elle est dirigée par un petit groupe de l'opposition armée syrienne qui s'appelle El Zenki. Alors, pourquoi? Ce groupe, donc, qui a été créé en 2011, est un mouvement lié aux frères musulmans d'abord. Mmh. C'est pas un mouvement salafiste donc. C'est un mouvement qui se bat contre l'armée syrienne et qui veut obtenir le départ de Bachar el-Assad et une nouvelle société en Syrie depuis 2011, mais qui n'a jamais provoqué de massacre au sein de la population. Sur ce plan-là, c'est plutôt un mouvement assez propre. Bon. Et alors c'est surtout symbolique aussi parce que la deuxième raison donc c'est que son nom El-Zenki provient du nom du père de Saladin. Saladin, pour aller très vite, c'est excusez-moi de la formule, c'est celui qui a donné une raclée lors de la deuxième croisade aux chrétiens donc et qui a surtout repris Jérusalem aux croisés. Donc dans la symbolique arabe et musulmane, c'est très important. Et c'est le père de Saladin, donc El-Zenki, qui avait fait en fait tout le gros du travail avant de mourir. El-Zenki aussi, c'est celui qui historiquement a fait de Damas que c'est redevenu une capitale d'un royaume musulman et arabe.
Mais pour revenir à aujourd'hui, on comprend hein, les noms qu'ils ont choisis, c'est très symbolique. Ouais. Mais pourquoi faire appel plutôt à un groupe plutôt qu'aux propres troupes américaines, russes? Pourquoi externaliser en fait? Alors, finalement
Non, le problème c'est les Américains, et Obama l'a toujours dit, il a d'ailleurs été élu sur cette base à la présidence des États-Unis, il a promis au peuple américain de ramener tous ces soldats qui étaient à l'extérieur sur des théâtres d'opération à la maison. Donc en plus il est en fin de mandat,
pas question d'en envoyer sur place.
En plus, on va pas refaire le débat, mais des hommes sur place sur le terrain, c'est des pertes considérables, c'est des batailles gigantesques, un jour vous gagnez ici, vous perdez là. Donc il y aura un prix politique à payer. Non, si vous voulez, c'est assez intelligent. Parce que ce groupe, donc, est en train de lancer une offensive depuis plusieurs jours sur Raqqa, la capitale, donc, autoproclamée de l'État islamique. Mais concomitamment à cela, l'armée irakienne, appuyée par l'aviation américaine, lance une offensive contre Fallujah. Donc, en fait, ce qu'il se passe, quand on regarde les choses à plat, il y a une réponse, entre autres aux attentats que nous évoquions à Tartous, il y a une réponse commune, même si Moscou et Washington disent « on travaille pas ensemble », c'est pas vrai. Mais force est de constater qu'au même moment, il y a une offensive qui vise Raqqa et une offensive qui vise Fallujah.
Et ça veut dire, pour terminer, Toufi, que ce groupe-là dont vous nous parlez, il va compter à la fin, il faudra bien l'entendre, s'il obtient effectivement des avancées par rapport au groupe État islamique.
Alors ce groupe, il faut quand même le rappeler, il n'est pas tout seul, c'est lui qui pilote un ensemble d'autres groupes de l'opposition qui se battront. Mais vous avez raison, ce groupe-là, s'il obtient des résultats militaires sur le terrain important, je ne sais pas, personne ne sait s'il prendra à lui tout seul ce groupe Raqqa, c'est quand même compliqué. Mais s'il arrive à gagner du terrain militairement, donc sur le terrain des opérations, eh bien quand on reviendra à la table des négociations, il faudra compter avec lui, il aura son mot à dire.
On va donc en reparler hein, sûrement
oui,
sur notre antenne.
Oui, on se reverra, je pense.
Merci Toufik Ben Aïchouch d'avoir été avec nous pour je répondre aux questions d'Étienne qui nous appelait d'Abidjan. On va accueillir maintenant Delvi qui est à Pointe-Noire au Congo. Bonjour Delvi.
Bonjour Marie et bonjour à tous.
Delvi, vous avez-vous des questions sur la visite de Barack Obama au Vietnam?
Oui, en effet. En visite au Vietnam, Barack Obama a annoncé la levée de l'embargo sur la vente d'armes. Quelles sont les conséquences de la levée de cet embargo? Et le traité sur le libre-échange transpacifique peut-il être ratifié avant le départ du président Obama de la Maison-Blanche.
Des questions donc sur la levée de l'embargo américain sur les armes au Vietnam et sur ce traité de libre-échange transatlantique, c'est Pierre Brocheux, historien spécialiste du Vietnam, qui va vous répondre, Delvy. Bonjour Monsieur Brocheux.
Bonjour Madame.
Alors effectivement, le président américain était au Vietnam en début de semaine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte déjà cet embargo sur les armes avait été imposé au Vietnam par les États-Unis ?
Eh bien, vous savez que les États-Unis étaient présents au Vietnam, ils ont fait la guerre aux Vietnamiens, au moins au Nord-Vietnam au moins, et aux révolutionnaires du Sud. Et par conséquent, il y a eu quand même un conflit qui a duré, disons, de 1965 jusqu'à 1975, n'est-ce pas, jusqu'à la victoire du Nord-Vietnam. Donc, il était impossible, dans ces conditions, que les États-Unis aient... la République socialiste du Vietnam, c'est ainsi que c'est appelé à partir de 1976, et des relations normales. Bon. Mais le Vietnam, entre-temps, est entré en réforme. En réforme, c'est ce qu'on appelle la rénovation d'Hoi-Ma-Hui. Et donc, à partir du Vietnam, à ce moment-là, le Vietnam a voulu revenir sur la scène internationale, prendre part au concert des nations et des États.
C'est donc le principal intérêt pour le Vietnam, M. Brocheux.
Un désir d'intégration dans la communauté internationale est l'objectif diplomatique numéro un du Vietnam à partir de 1985-88.
Donc c'est le principal intérêt pour le Vietnam, cette levée de l'embargo, justement revenir dans le concert des nations, avoir les mêmes droits que les pays voisins. L'intérêt pour les États-Unis, il est où ? C'est plutôt pour sceller cette réconciliation ?
Pas avoir une vue trop étroite, il ne faut pas focaliser de manière étroite sur la levée de l'embargo des armes. D'abord, je rappelle que en 2014, il y a déjà eu une levée partielle de l'embargo sur les armes. Les États-Unis ont autorisé le Vietnam à acquérir des armes de défense maritime. C'est très important. Alors, derrière cela, bien sûr, se profilent les initiatives chinoises en mer de Chine de méridionale. C'est évident, les îles Spratly, les îles... Ouais, c'est ça qui est en conflit à l'heure actuelle.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement les États-Unis comptent sur le Vietnam pour être une force alliée dans la région ?
Mais bien sûr.
Une force militaire.
Sinon une force alliée, du moins de faire un contrepoids, n'est-ce pas, à la présence chinoise, aux initiatives chinoises qui sont de plus en plus pressantes. Parce qu'ils ont commencé à bétonner, par exemple, un certain nombre d'îlots. Et construire donc des bases aériennes, navales, etc. Ils ont introduit d'autre part des navires qui font la prospection pétrolière, des plateformes pétrolières, même il y a eu une plateforme pétrolière qui a été introduite. Et tout cela, bien sûr, met la Chine directement en contact avec la Vietnam, notamment entre les forces navales, les gardes-côtes vietnamiens.
On comprend, M. Brocheux, tout ce qui se joue autour de cette levée de l'embargo sur les armes. Delvy faisait allusion aussi au traité de libre-échange transatlantique. C'est aussi ce qui se joue, ce qui s'est joué en début de semaine entre Barack Obama et le Vietnam.
Les deux pays ont intérêt. N'est-ce pas ? Les États-Unis, parce que le Vietnam est un marché important, un marché d'abord pour l'investissement et un marché pour l'exportation. N'est-ce pas ? Alors, entre parenthèses, ce n'est pas l'exportation des armes, parce que les armes américaines sont sophistiquées mais très chères. Et jusqu'ici, c'est la Russie, à la suite de l'Union soviétique, qui fournit les armes l'Europe au Vietnam. En février de cette année, le cinquième sous-marin russe a été livré au Vietnam, à la marine nationale vietnamienne. Il ne faut pas oublier. Et la plupart des armes achetées par les Vietnamiens le sont en Russie, c'est le premier vendeur d'armes au Vietnam, mais ils ont acheté aussi des armes à Israël, par exemple. Ils ont diversifié. Voilà, c'est le mot d'ordre de la diplomatie vietnamienne, de la politique internationale du gouvernement vietnamien, c'est multilatéralité et diversification.
Alors quand même, le Vietnam, c'est important pour Barack Obama qu'il signe ce traité transpacifique, pardon, je vais y arriver. C'était vraiment aussi le but de sa visite.
Oh, c'était pas seulement le but de sa visite. Je crois que le but de sa visite, c'est effectivement d'aller dans un pays qui est peut-être le, disons, je dirais pas le verrou, mais qui est le contrepoids à toutes les initiatives de la Chine dans la mer de... Parce que c'est le problème principal pour les États-Unis, je crois, dans le Pacifique, dans l'ère du Pacifique, c'est la Chine. C'est la montée en puissance de la Chine et notamment le renforcement de la puissance navale chinoise.
On comprend bien donc l'enjeu de cette visite grâce à vous, Monsieur Brocheux, la visite de Barack Obama au Vietnam pour faire un contrepoids donc à la force chinoise dans la région. Et merci à Delvy de nous avoir appelé de Pointe-Noire pour nous poser des questions sur cette visite. 8h25 en temps universel, on va parler maintenant football avec Maher qui est à Lomé au Togo. Bonjour Maher.
Oui, bonjour Marie.
Maher, vous aviez une question à nous poser sur le football français.
Oui, sur le foot français. Merci à tous les auditeurs. Merci à Radio et à RFI de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie, on vous écoute.
J'ai appris sur les zones de la RFI que Didier Deschamps a remplacé Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid, qui est blessé, par Adil Rami.
Et vous aviez des questions à ce propos?
Oui, à ce propos. Pourquoi le choix de Rami? La seconde question.
La deuxième question, Maher?
Oui. Samuel Umtiti est le défenseur central dans les chefs réservistes de l'équipe de France. Et Didier Deschamps ne l'a pas appelé, il a appelé Adil Rami. Donc, je voudrais savoir le pourquoi.
Alors, pourquoi donc Adil Rami plutôt que Samuel Umtiti pour remplacer Raphaël Varane? C'est Eric Churin du service des sports de RFI qui va tout vous dire. Bonjour Eric.
Bonjour Marie, bonjour Maher.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler pourquoi Raphaël Varane ne va pas jouer dans l'équipe de France?
Il est un petit peu blessé, la cuisse gauche est sérieux, ça va prendre 3 à 4 semaines a priori. Il s'est blessé à l'entraînement avec le Real Madrid où il ne jouait pas beaucoup cet an dernier. Et donc ça rendait sa présence avec les Bleus trop incertaine, trop floue. L'échéance fixée après l'examen des Bleus, c'était 3 à 4 semaines. Autrement dit, il aurait raté probablement les 3 matchs du premier tour. Hein, les matchs qui vont opposer la France à la Roumanie le 10 juin au Stade de France, à l'Albanie le 15 juin à Marseille et à la Suisse le 19 juin à Lille. Et c'est, en plus, ça pouvait durer plus longtemps. Du coup, il a préféré se passer directement de son capitaine de défense.
Oui, c'est ça. Donc Didier Deschamps n'a pas voulu prendre le risque d'avoir un joueur finalement qui allait rester sur le banc de touche.
Sachant qu'il y a eu des préalables avant Deschamps, il y a des sélectionneurs qui sont partis avec un grand joueur blessé en compétition. Ils l'ont tous regretté ensuite. Roger Lemaire avec Zidane à la Coupe du Monde 2002, Jacques Santini avec Desailly à l'Euro 2004 et Raymond Domenech avec Patrick Vieira à l'Euro 2008. Il a eu au moins le mérite, Didier Deschamps, dans cette affaire, s'il n'avait pas anticipé, de trancher vite.
Et de se servir donc de l'expérience de ses prédécesseurs. Alors pourquoi Adil Rami pour le remplacer?
Et pourquoi pas? Non, pourquoi triper Adil Rami qui ne faisait pas partie effectivement des réservistes plutôt que Samuel Umtiti qui en faisait partie? En préalable, sachez que Umtiti n'a pas encore totalement dit adieu à l'Euro alors qu'il n'a toujours aucune sélection en bleu parce qu'un autre défenseur central français est aussi blessé, quoique moins sérieusement, c'est Jérémy Mathieu, le Barcelonais ménagé pendant une grosse semaine après s'être plaint au mollet. Alors on va voir, Didier Deschamps a indiqué qu'il attendait, il est prévenu maintenant d'avoir des informations médicales supplémentaires d'ici la fin de la semaine avant de se prononcer. Donc Umtiti a encore ses chances. Ensuite, Didier Deschamps avait déjà expliqué qu'il ne mettait pas dans les réservistes des joueurs qui avaient été titulaires en équipe de France auparavant. C'était quand même le cas d'Adil Rami, l'homme de base de la défense centrale des Bleus, sous l'ère de Laurent Blanc, le prédécesseur de Didier Deschamps, donc entre 2010 et 2012. Il l'avait lui-même appelé pour la tournée catastrophe en Amérique du Sud un an avant la Coupe du Monde en Uruguay et face au Brésil, défaite 3-0 face au Brésil. Il avait sans doute un peu fait les frais à cette époque-là, Adil Rami. Et puis il a eu ensuite deux années un peu plus compliquées, mais il a fait une très très belle fin de saison avec le Séville FC, le club aussi de Kevin Gamero. Il a gagné la Ligue Europa, il est titulaire, il a joué contre des grands clubs. Il a 30 ans, il a de l'expérience à faire valoir. Et la vraie raison donnée par Didier Deschamps, après, est-ce que c'est la vraie, la seule, je veux dire, en tout cas c'est une raison qui se tient sur le terrain, c'est une raison liée au terrain, c'est pas un problème de confiance par rapport à Umtiti qu'il voyait plus dans l'avenir, c'est le fait qu'il est trois gauchers s'il avait pris dans la défense centrale, s'il avait pris Umtiti, et un seul droitier, Laurent Koscielny, qui en plus peut jouer à gauche, donc il préférait avoir un vrai droitier comme Varane, ce qui est le cas.
Adil Rami doit sa place donc au fait qu'il soit droitier, et un peu au hasard de la vie alors.
Bah oui, il y a trop de gauchers, c'est important ça.
Merci beaucoup Éric Churin pour toutes ces explications techniques.
T'en prie, pour Bonita.
À tout à l'heure pour la Libre Antenne, un rappel sur l'actualité. 7 000